nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le cancer du sein est le premier cancer féminin qui touche en France pratiquement une femme sur 10. Depuis 2004, le gouvernement a mis en place un dépistage généralisé du cancer du sein pour les femmes de plus de 50 ans. L'objectif est de dépister les cancers les plus précoces pour augmenter les chances de survie. Depuis les années 2000, pourtant, le dépistage précoce est régulièrement remis en cause, provoquant anxiété chez les patientes potentielles, traitement lourd pour de petites tumeurs qui n'auraient au final pas ou peu évolué. Alors oui ou non, le dépistage précoce est-il invasif pour notre corps? C'est ce que je vous propose de voir en compagnie de notre invité, mais je vous propose aussi, au cours de cette émission Focus, de dresser l'histoire du dépistage et du traitement du cancer du sein depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, car c'est une maladie que l'on a décrite dès l'Antiquité égyptienne, avec parfois des traitements pas très commodes. Jacques Rouesset, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes cancérologue, ancien chef de service à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, ancien directeur médical du centre René Huguenin, centre de lutte contre le cancer à Saint-Cloud, et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, et j'ajoute, auteur de l'histoire du cancer du sein en Occident, enseignements et réflexions, édité aux éditions Springer en 2011. Dans votre livre, Jacques Rouesset, vous nous expliquez très rapidement qu'il existe deux visions du cancer. On va en parler de manière générale et puis après on va avancer sur le cancer du sein. La vision égyptienne et puis la vision grecque d'Hippocrate. La vision égyptienne qui pense que c'est une réaction de l'organisme à une agression extérieure. Et puis donc la vision d'Hippocrate qui perçoit, lui, la tumeur comme la rupture d'un équilibre harmonieux.
Oui, effectivement. Donc c'est resté, je pense, dans l'histoire de la médecine, cette distinction entre ce qu'à un moment, au XVIIIe siècle, ils appelaient une production accidentelle, il arrive quelque chose de l'extérieur, et puis d'autres points de vue, c'est la rupture d'un équilibre, c'est un peu une dégénérescence. Et beaucoup d'auteurs, de très bons auteurs d'ailleurs, au début du 19e, comme Michat, comme Laennec, s'opposaient à cette notion de dégénérescence. Il pensait que c'était plutôt une production accidentelle et vraisemblablement par comparaison avec la tuberculose, ce en quoi ils avaient raison. Mais effectivement, pour le cancer, a priori, il y a les deux. Il y a, d'une part, il peut y avoir, comme par exemple pour le cancer du col de l'utérus ou les cancers de l'estomac, un agent infectieux qui vient causer le cancer. Encore peut-être aussi faut-il que le terrain soit prédisposé. Dans le cancer du sein, par exemple, la production accidentelle, l'élément extérieur est loin d'être évident. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, on considère que le cancer du sein est dû à plusieurs causes, plurifactorielles.
Alors on va y revenir. Je disais dans cette introduction que dès l'Antiquité égyptienne, on retrouve des traces écrites décrivant le cancer du sein. Donc c'est une description qui est très ancienne.
Ah oui, absolument, oui, oui. Donc ça remonte à peu près à 1600 avant Jésus-Christ. Le mot cancer a été donné par Hippocrate, donc à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, et à partir du cancer du sein, qui est un modèle des cancers. Alors, en ce sens que c'était considéré un peu comme, quand il évoluait, heureusement c'est des formes qu'on ne voit plus, qu'il était un peu l'équivalent d'un crabe, qui à la fois avait la forme d'un crabe et en plus ne lâchait pas sa proie.
Alors, il y avait le diagnostic,
oui.
Et puis il y avait le traitement. Je le disais, pas très commode, puisque très tôt, déjà, on pense à l'ablation,
oui.
Mais sans anesthésie.
Alors, effectivement, très tôt, on pense à l'ablation, avec deux aspects, et qu'on va retrouver, j'allais dire, un peu ultérieurement, mais dans des proportions évidemment bien moindres, c'était soit le ne l'y mettant de gérer, surtout ne m'y touchez pas, soit en retire. Et le retirer, c'était chirurgical, bien évidemment. Alors, sans anesthésie, effectivement, encore qu'il y avait ce qu'on appelait l'éponge soporifique, ça devait être une éponge qu'on appliquait sur le nez des pauvres malades, avec un peu d'opium qui était connu. Mais je crois qu'il y a eu des accidents, et ça s'est arrêté. Et finalement, l'anesthésie générale est apparue au 19e siècle. Ça a révolutionné les choses.
Alors, premier traitement possible, donc, cette ablation. Mais également, donc, on retrouve dans votre ouvrage toute une série de traitements qui peut nous sembler très curieux, mais j'imagine qu'ils semblaient tout à fait valables à l'époque. notamment plaquer un morceau de viande rouge pour nourrir le cancer et le faire partir. J'aimerais que vous nous en parliez.
Oui, alors ça, c'est un vieux truc, et c'était l'idée de tromper la proie. Et déjà, Joseph de Maistre a fait allusion à ça, je ne sais plus pourquoi, autour de Vénus, je ne sais. Et cette idée de détourner l'attention du fatum, du destin, sur une autre proie. Donc à ce moment-là, on imagine, on espérait que le cancer qui se nourrissait du sein de la malheureuse allait se nourrir de l'escalope ou du pigeon cru qu'on lui mettait et quitter la malade. Alors évidemment, déjà beaucoup d'auteurs pensaient que ça ne marchait pas, mais c'est une tradition, j'ai lu ça dans certains livres, qui est persistée jusqu'au début du XXe siècle dans certaines campagnes.
Alors il y a d'autres systèmes que vous décrivez, notamment la poudre d'yeux d'écrevisse. Alors là, je pense que l'écrevisse, ça se rattache aussi au crabe.
Oui, absolument. Alors ça, c'est vraisemblablement, ça je ne l'ai pas trouvé écrit, mais je suis persuadé comme vous, on soigne le mal par le mal. Ça, c'est la nature fournit les moyens de traiter le mal par quelque chose qui est voisin du mal. De même que les saules, l'écorce des saules permettait de traiter le paludisme, les saules poussaient dans les marais et le paludisme survenait dans les marais.
Alors, on retrouve aussi d'autres choses qui prêtent à l'anecdote, le cataplasme et notamment le cataplasme de lézard. Alors,
ah oui,
j'imagine
alors
qu'il en fallait quelques-uns.
Oui, là, alors, c'est un catalogue invraisemblable de choses. Et d'ailleurs, les bons auteurs disaient que plus une maladie était incurable et plus il y avait de traitements à proposer, mais qu'aucun ne marchait. Et donc, les gens sérieux de l'époque, et il y en avait beaucoup, considéraient que ça ne marche pas. Alors, il y a eu des trucs comme l'arsenic, par exemple, qui était proposé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'arsenic a été proposé donc pour les cancers. Et puis, à la fin du 19e siècle, alors surtout en cataplasme, mais on considérait que ça pouvait être toxique quand même. Et à la fin du 19e siècle, il y a des auteurs qui ont rapporté des diminutions de cancer ganglionnaire. Et récemment, on a montré de façon extrêmement sérieuse que des dérivés de l'arsenic pouvaient être efficaces dans certaines leucémies très particulières. Alors évidemment, dans un contexte totalement différent. Mais c'est quand même intéressant de voir que finalement, un truc où on devait dire « Oh, l'arsenic, quoi, eh ben, il y a
finalement,
quelque chose. »
Oui. Alors effectivement, vous le disiez, c'est un peu le signe, tous ces développements sont un peu le signe d'une impuissance face à une maladie
qui vous
envahit. Et puis aussi un autre espoir déçu, l'électrothérapie au XVIIIe siècle.
Alors l'électrothérapie, oui, ça c'est un espoir déçu. Il y a eu quelques tentatives jusqu'au début du XXe siècle, et puis c'était que ça s'est révélé dangereux. Alors le vrai pas en avant, ça a été la radiothérapie, évidemment. Radiothérapie qui, alors, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les rayons X ont été découverts par Röntgen en 1895, et dès la fin du 19e, on a commencé à penser à la thérapeutique. Et finalement, les règles de la thérapeutique par les rayons, mis grosso modo à peu près un demi-siècle, peut-être un peu moins, à se mettre en place. Et donc ça, c'est vraiment un vrai progrès.
Donc il faut attendre le début du XXe siècle pour la radiothérapie,
oui.
La chimiothérapie aussi.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière,
oui.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Parce que la chirurgie, donc elle était connue en disant, il faut que ça soit une chirurgie large. Donc on savait bien que si on ne retirait pas tout, eh bien ça risquait de récidiver. Le problème, c'est qu'évidemment, pour les malades, c'était tout à fait terrible. Donc, on faisait des chirurgies les plus rapides possibles. Il y avait un Anglais qui s'était vanté d'avoir opéré sa femme en 2 minutes et quelques secondes. Bon. Mais alors, avec l'introduction de l'anesthésie générale, autour des années 1850, avec l'introduction de l'asepsie et de l'antisepsie, on a pu faire des chirurgies réglées. Donc, ça, c'est le premier progrès. Et puis, ensuite, les rayons. Et la combinaison rayon-chirurgie a permis, mais alors ça a mis à peu près 80 ans, si vous voulez, de réduire l'acte chirurgical et de réduire la mutilation. Et puis, il y a eu les traitements médicaux, c'est-à-dire un traitement général. Et le premier traitement général, ça a été une intervention hormonale, c'est-à-dire qu'on supprimait les ovaires des femmes. Ceci dès la fin du 19e. Puis après, l'hormonothérapie s'est raffinée, développée, ses indications se sont précisées. Quant à la chimiothérapie, il y avait eu quelques tentatives avant-guerre, et puis c'était un accident de la guerre. un bateau américain transportait des gaz de combat, au cas où on allait s'en servir. On s'en est pas servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avant, on s'en était servi à la Première Guerre mondiale. Ces bateaux américains ont été coulés, endommagés par une attaque aérienne. Il y a des marins qui ont été tués, il y a des marins et des dockers qui ont aidé à transporter les conteneurs de gaz de combat. Et on s'est rendu compte que certains avaient des accidents très graves, je crois qu'il y en a qui sont morts, et que c'était lié à une baisse de leurs globules blancs, élément figuré du sang. Donc on s'est dit, ça empêche la division cellulaire, et on est passé comme ça à la chimiothérapie, qui a mis à peu près... Alors on a commencé la chimiothérapie dans des tumeurs dites liquides, c'est-à-dire évidemment quand vous avez un cancer du sein comme une leucémie, vous pouvez ni la retirer ni l'irradier. Donc on a commencé avec sa chimiothérapie, on a vu que ça marchait, et ça s'est étendu aux tumeurs dites solides, et en particulier au cancer du sein.
Alors aujourd'hui, donc je disais radiothérapie, chimiothérapie, ça arrive d'avancer un peu vite, vous avez bien sûr raison d'évoquer toutes ces étapes. Et puis, il y a toujours dans ces cas-là, lors de maladies graves, qui s'étendent bien plus souvent au-delà du cancer du sein, de tous les autres cancers et autres maladies importantes, le problème de l'alimentation. Et le régime alimentaire aussi agit, alors peut-être de manière placebo, je ne sais pas, ou réelle, vous allez pouvoir nous dire, sur de telles maladies.
Alors, le régime alimentaire a sûrement un impact sur la survenue des cancers du sein. Mais on ne sait pas très bien lesquels. On sait qu'il y a un impact alimentaire. C'est parce que si vous prenez les Japonaises qui ont à peu près le même mode de vie génital que nous, c'est-à-dire peu d'enfants et tardivement. Et ça, ça impacte, ou si vous voulez, ça augmente le risque de cancer du sein. Eh bien, quand elles vivent au Japon, elles ont très peu de cancer du sein. Quand elles migrent en Californie ou ailleurs dans nos pays occidentaux, à la première génération, elles ont un taux de cancer du sein qui est situé entre le taux très bas japonais et le taux élevé californien. Et à la deuxième génération, elles rejoignent les californiennes, tout en restant japonaises, bien évidemment. Donc là, c'est pas génétique, c'est forcément environnemental et vraisemblablement alimentaire. L'ennui, c'est qu'on sait pas très bien cerner tout ça. Donc en fait, les conseils de bon sens qu'on peut donner, c'est d'éviter trop les graisses, éviter le surpoids, éviter l'alcool. Mais enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas le remède miracle, la recette du bon docteur Tartampion qui va vous éviter d'avoir le cancer du sein. Alors après, si vous voulez, une fois que les choses sont évoluées, qu'on garde aussi un certain régime d'équilibre et généralement de bon sens, mais j'allais dire que les malades le font un petit peu spontanément.
Alors, vous allez me dire, je mets les pieds dans le plat, David Servan-Schreiber est décédé aujourd'hui, mais il avait publié, il y a plusieurs années, un livre où il expliquait que pour sortir de son cancer, de son premier cancer, il s'était restreint à une alimentation bien particulière et voilà, avait fait un best-seller dessus.
Oui, alors si vous voulez, là, c'est les cas individuels. Il n'y a malheureusement pas de série statistique suffisante pour recommander ça à tout le monde. Donc si vous voulez, il n'y a malheureusement pas le régime qui met à l'abri du cancer. Mais aussi, il ne faut pas non plus culpabiliser si on a suivi un régime alimentaire, j'allais dire normal, bon, équilibré tel qu'on fait dans nos familles et dans, j'allais dire, dans le tous les jours, une alimentation de bon sens, il faut garder ça. Et je pense que ça ne faut pas non plus dramatiser. Alors, il y a toujours eu ces problèmes de régime alimentaire. Des anecdotes, j'ai bien rapporté un peu dans mon livre, qui sont assez rigolotes, par exemple. Il y avait quelqu'un qui avait dit « il y a plus de cancers dans le nord de la France parce qu'ils ont l'habitude de manger des escargots crus ». Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. Bon. Mais, et puis en deuxième position, ils mettaient l'alcool. Alors évidemment, je pense que l'hyperconsommation de bière est sûrement beaucoup plus dangereuse que la consommation d'escargots crus. Il y a eu aussi un auteur lyonnais qui s'appelait Poutot, qui était un grand médecin de l'époque. Lui, alors quand le cancer était déclaré, il conseillait la diète quasiment absolue, quelques verres d'eau. Voilà. Alors évidemment, ça ne donnait pas de résultats farouches et les malades étaient plutôt fatigués. Voilà.
Et aujourd'hui, donc,
alors aujourd'hui, pas d'alimentation, je crois que c'est quelque chose de bon sens. Il y a deux choses de bon sens à recommander. C'est donc un régime équilibré, j'allais dire normal, en évitant les graisses, ça c'est sûr. Et puis, il y a l'autre chose qui est importante, c'est l'exercice physique. Un exercice physique, évidemment, raisonnable. Vous n'allez pas vous mettre à faire de l'équitation d'obstacles, mais la marche, des choses raisonnables.
Alors justement, on va en venir à aujourd'hui. Je le disais en introduction, Depuis quelques années, c'est instauré un climat particulier vis-à-vis du dépistage précoce. Alors en France, le dépistage précoce est systématique depuis 2004 pour les femmes après 50 ans. Il y a un climat particulier où finalement le dépistage serait quelque chose de négatif au final pour les femmes. Alors quel est votre regard sur cette situation ?
Alors d'abord, je vais me permettre de vous faire une critique. C'est que le terme dépistage précoce ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi ?
Allez-y, dites-moi
pourquoi. Parce que vous avez d'une part le diagnostic précoce, c'est-à-dire que effectivement, une femme trouve une anomalie dans le sein, même minime, elle va consulter son médecin. Ça, c'est très bien, on ne peut être que pour et que pour l'encourager. Vous avez perçu, quel que soit l'âge, on perçoit une petite boule anormale, une déformation, enfin, une douleur éventuelle. On va consulter son médecin. Bon, ça, c'est le diagnostic précoce, très important. Le dépistage, c'est une autre démarche. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui va très bien, qui ne se plaint de rien, qui n'a pas dans sa famille des antécédents de cancer du sein qui pourraient lui dire, ben quand même, faut que je fasse particulièrement attention. Ça, c'est une autre démarche très importante. Et puis tout d'un coup, on lui dit, ben faites-vous faire une mammographie alors qu'elle se plaint de rien. Alors c'est ça qui est discuté, et peut-être discutable. Alors l'idée, elle est simple, c'est de dire, plus c'est petit, plus je vais traiter dans de meilleures conditions, donc plus le traitement sera léger, plus j'aurai de chances de guérir. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, on a des moyens de trouver des choses très petites grâce aux mammographies. Ce sont des examens fiables et facilement reproductibles. Alors, sur quoi s'est basée la démarche ? Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites où on comparait des femmes qui n'avaient pas de dépistage et puis des femmes qui étaient soumises à un dépistage. Et on a constaté que chez les femmes qui étaient soumises à un dépistage, on diminuait la mortalité par cancer du sein. Parce que c'est ça le critère, est-ce
qu'on diminue la mortalité
par cancer du sein. Alors, ça implique beaucoup de choses. D'abord, une fois de plus, on est dans la démarche du dépistage et chez madame tout le monde, et pas de dépistage, par exemple, s'il y a une famille, je le répète, parce que si ça s'entend, où il y a manifestement quelque chose de familial, ben, il faut aller voir son médecin, en parler, et là il y a un dépistage particulier à faire. Mais le dépistage, je reprends madame tout le monde, on s'est rendu compte que c'était efficace en termes de population, c'est-à-dire qu'on obtenait une réduction de la mortalité si c'était fait entre 50 et 74 ans. Vous voyez qu'il y a déjà un côté un peu systématique et peut-être, on pourrait dire, un peu bébête, mais c'est parce qu'on est dans de la statistique. Alors pourquoi pas après 74 ans ? Eh bien parce que si vous envoyez à toutes les dames qui ont plus de 74 ans, un bon pour se faire faire une mammographie, vous allez avoir plus de probabilité d'avoir une dame qui a fait un infarctus du myocarde, qui a peut-être un Alzheimer, donc on tombe dans quelque chose qui n'est pas raisonnable. En revanche, une dame qui est en pleine forme, elle peut avoir le dépistage systématique de 50 à 74 ans, c'est très bien. Puis après, elle voit avec son médecin traitant, lui dit, écoutez madame, vous êtes en pleine forme, vous n'allez pas recevoir une convocation, mais entre nous, ce serait bien, vous continuez à faire les mammographies. De même, avant 50 ans, on n'a pas prouvé que, en termes de population, on obtenait une réduction de la mortalité en termes de population. Mais qu'en revanche, on pouvait avoir des faux positifs, parce que les seins sont plus denses avant la ménopause, donc vous avez plus des images plus difficiles à interpréter, donc vous allez plus intervenir. Alors là, la démarche devient individuelle. La femme va voir son médecin et dit, écoutez, moi, une dame qui a eu un cancer, elle peut être inquiète de son... Et le médecin va dire, écoutez, madame, on fait un bilan et ben, on va voir en fonction de ce bilan. Et puis on lui explique en disant, écoutez, on peut trouver trop d'images, etc. C'est des questions, on retourne dans de la médecine. Dans le dépistage organisé, c'est un peu comme la vaccination obligatoire, si j'ose dire.
Mais ce qui était remis en cause, c'était justement savoir si on intervenait sur quelque chose dont on ne savait pas si c'était malin
alors,
ou bénin.
Deuxième volet. Donc, une fois que vous avez dit, le dépistage, ça marche. Alors, effet bénéfique, réduction. Alors, là, il y a des discussions. Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 16%? Est-ce que c'est 20%? Bon, enfin, dans l'ensemble, ça réduit la mortalité. Maintenant, effet négatif. Alors, effet négatif. Alors, vous pouvez avoir des mammographies qui ne montrent rien et vous avez rassuré à tort la malade parce qu'une fois sur très faible proportion, ben, il va y avoir quand même un cancer. Parce que c'est une photographie à un moment donné. Ça, c'est l'effet négatif qui est rare, mais bon, enfin...
On ne distingue pas la tumeur à la mammographie.
Alors pourquoi on ne ferait pas une échographie à la place de la mammographie? Parce qu'en termes de santé publique, une échographie, c'est opérateur dépendant. Si vous voulez, l'opérateur, donc c'est très individuel, ça vient peut venir en complément de la mammographie, mais pas à titre systématique. Et puis, autre effet négatif, et c'est celui-là qui est le plus reproché, c'est les faux positifs. Alors, les faux positifs, c'est-à-dire votre image, en fait, correspond à du bénin. Alors, il faut bien dire qu'il y en a quand même de moins en moins. Il y en a. Et s'il y en a, avant, peut-être une dizaine d'années, on intervenait souvent. On faisait une intervention chirurgicale. Maintenant, il y a des systèmes, ça dépend évidemment des corps, avec, vous enfoncez une aiguille, vous ramenez du tissu, vous pouvez rassurer. Donc, si vous voulez, l'intervention inutile existe dans de rares cas, mais elle est moins traumatisante qu'avant. Troisième problème, le surdiagnostic. C'est-à-dire, je trouve des cancers du sein et ces cancers du sein n'auraient jamais évolué. Alors évidemment, là aussi, ces cancers du sein sont des petits cancers, apparemment pas très agressifs. L'examen au microscope peut poser quelques problèmes. Mais supposons que ça soit quand même des vrais petits cancers. Alors, on fait des autopsies de dames âgées qui meurent d'autre chose, et bien on va leur trouver des petits cancers. Alors, quel est l'impact de ce surdiagnostic? Alors, il y a des études où on dit qu'il n'y a pas de surdiagnostic, il y a d'autres qui disent qu'il y a beaucoup de surdiagnostic. Vraisemblablement, on se trouve dans un taux, dans 5 à 10% des cas, il y a vraisemblablement du surdiagnostic. Alors, le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quand vous êtes en surdiagnostic ou pas en surdiagnostic. C'est des études rétrospectives où vous regardez ce que serait devenue la population si on n'avait pas fait de dépistage, etc.
Et ça, vous pensez, professeur Jacques Rouesset, qu'à terme, d'ici quelques années, on pourra distinguer une microcalcification d'une tumeur maligne?
Alors, à mon avis, parce que ça a toujours été... C'est curieusement, si vous parlez de l'histoire du cancer du sein... Il y a, je ne sais pas si vous avez lu un moment, les femmes se trouvaient des petites adurations dans le sein. Alors, il y avait des gens qui disaient « on va les opérer parce que ça va devenir un cancer ». Et puis, on savait aussi qu'il y en avait qui ne bougeaient pas. Alors, on a énormément affiné. Alors, je pense qu'on affinera de plus en plus les choses. Donc, il y en aura de moins en moins. Est-ce que du jour au lendemain, on dira blanc ou noir? C'est difficile parce qu'en plus, supposez que ça soit un vrai petit cancer invasif, enfin, relativement agressif, on le traite. Si la personne meurt avant écrasée par une voiture, vous l'avez traité pour rien. Je pousse loin le bouchon, mais vous voyez, et ou si la personne vit 110 ans.
Oui, bien sûr, il y a toujours,
il y a toujours des biais. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut arrêter le dépistage? Alors moi, je pense que je suis pas pour l'arrêt de ce dépistage, du dépistage organisé pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que, de facto, il y a des chiffres quand même, on diminue la mortalité par cancer du sein. Ça, c'est un fait. Deuxième raison aussi, le fait très pratique que ce dépistage, en France en tout cas, est fait dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de qualité des appareils et du personnel. Donc cette amélioration, un contrôle de qualité qui n'est pas seulement au départ, mais qui est continu, cette amélioration profite à la fois aux personnes dépistées, mais aussi aux personnes qui rentrent dans le cadre du diagnostic précoce ou qui sont hors dépistage organisé pour les raisons qu'on a dites. Et ça a aussi entraîné un mouvement vertueux des radiologues qui admettent qu'on relise, puisque dans le dépistage organisé, quand le cliché est considéré comme normal, c'est-à-dire dans 90% des cas et largement, eh bien c'est relu pour vérifier. Donc il y a, là encore, de la qualité qui est apportée. Et puis, si vous regardez l'ensemble de l'évolution de tous ces facteurs, c'est-à-dire l'incitation au diagnostic précoce, l'incitation au dépistage, l'amélioration des traitements, eh bien, vous voyez qu'on traite des tumeurs de plus en plus petites et que, malheureusement, le taux de cancer du sein a augmenté, a pratiquement doublé en 20 ou 30 ans, mais la mortalité est restée grosso modo la même. Donc tout ça, c'est un mouvement vertueux. Vraisemblablement, ces améliorations sont dues à plusieurs critères. Alors on peut toujours se bagarrer, c'est plutôt celui-ci, c'est plutôt celui-là. Mais ça serait embêtant de supprimer un pan très important. D'autre part, Que ça soit anxiogène, je veux bien le croire. Même, c'est sûr. Mais, si vous considérez maintenant les femmes qui se font examiner au point de vue gynécologique, est-ce que le fait d'aller voir son gynécologue, actuellement, c'est anxiogène? Pas tellement. Ça, jamais vous voyez de gens... Donc, est-ce que, petit à petit, l'introduction de ces mammographies, qui sont sans danger, avec les nouvelles techniques, ne sera pas admise par la population?
D'accord, c'est une question de temps.
Moi, je pense que ça va être moins anxiogène. Alors, je ne dis pas que pour tous les cancers, il faille faire du dépistage. On pourrait en discuter des heures. Mais pour le cancer du sein, je trouve que ce serait une erreur d'arrêter ce dépistage organisé. Voilà.
Voilà, le mot est dit. Nous arrivons à la fin de notre émission. Une dernière question, Jacques Roisset, vraiment en quelques mots, puisque oui. C'est vraiment la fin. Dans votre livre, j'ai lu qu'il y avait aussi des hommes qui étaient touchés par le cancer du sein.
1%. Alors là, si vous voulez, vous n'allez pas faire de dépistage.
Mais oui.
Pourquoi? Parce que le chiffre de cancer du sein est trop faible pour aller embêter toute une population. D'autre part aussi, pour un homme, c'est plus facile de palper le petit pouls de sein qu'il a que pour une femme. Donc là, ça serait, à mon avis, faire un dépistage systématique du cancer du sein chez l'homme, stupide. Enfin, ça, je ne vois pas l'intérêt. C'est vous dire que je ne suis pas un partisan du dépistage tout azimut, mais que j'en reviens pour la femme, je pense que c'est un bon truc.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Roisset. Nous sommes passés de l'histoire du cancer du sein, de son diagnostic à son traitement depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours avec les questions qu'on se pose aujourd'hui. Je redonne le titre de votre ouvrage à nos auditeurs. Une histoire du cancer du sein en Occident, enseignement et réflexion, avec une préface du professeur Maurice Tubianac et votre confrère à l'Académie de médecine, publié aux éditions Springer en 2011. Merci à vous d'être venu nous voir, professeur Jacques Roisset.
Merci. C'est moi qui vous remercie.